Chroniques antarctiques. Voyage à la mer de Ross. Je vous emmène naviguer au cœur d'une expédition polaire le long des côtes de l'Antarctique.
On l'a rien tout devant derrière. On l'a tout devant derrière. Tout à fait, on l'a tout devant derrière.
Ok.
Bonjour à vous, chers auditeurs et auditrices de Radio Pays d'Hérault et RPH Sud. Je vous parle depuis le navire Persévérance, un navire scientifique en route vers l'Antarctique. Nous sommes partis de Nouvelle-Zélande le 20 janvier dernier, donc au cœur de l'été de l'hémisphère sud. Et nous sommes actuellement par 50 degrés de latitude sud en route pour traverser l'océan Austral, jusqu'à la mer de Ross, que nous devrions atteindre dans environ une dizaine de jours. La mer de Ross est, avec la mer de Weddell, un des deux grands bassins côtiers autour du continent antarctique. Situé au sud du courant circumpolaire qui parcourt l'océan Austral, cette mer est bordée en son sud par un énorme glacier qui fait la surface de la France, avec une falaise de glace côtière de 800 km de long. La mer de Ross présente donc un écosystème très particulier que nous allons précisément étudier lors de la mission qui va durer 2 mois. Jean-Louis Etienne, explorateur polaire français, est à l'origine de ce projet. C'est lui qui a fait construire le navire Persévérance et il nous explique maintenant les objectifs de notre mission. Jean-Louis, on vient de décoller de Christchurch en Nouvelle-Zélande et on fait route vers le sud. Est-ce que tu peux nous expliquer les objectifs de notre mission ?
Alors effectivement, on vient de quitter Christchurch il y a quelques jours. Sur la route, on va mettre en mer la bouée tipode, mais ça on en parlera. Cette bouée sonographique, on a aussi un mouillage à récupérer. Et l'objectif, c'est d'abord d'aller en mer de Ross. Cette mer de Ross est la seule mer adjacente au continent antarctique qui est un aire marine protégée. Ça a été âprement négocié par Barack Obama et John Kerry à l'époque. Je dis âprement parce qu'effectivement, les aires marines protégées autour de l'Antarctique, il y a 2 pays qui s'y opposent, la Chine et la Russie, et donc ça avait été en 2016 bien négocié. Donc, parmi les conditions que les Chinois et les Russes ont acceptées, voyons ce qui se passe dans 10 ans. 2016-2026, on y est. Donc nous, ce que l'on peut faire, en plus de tous les équipements, mais ça qui pourront être décrits par les spécialistes que nous avons à bord, l'objectif dans le cadre de cette aire marine protégée, c'est un inventaire de la faune. D'une part, les mammifères marins. On a un acoustique Manta, donc que l'on tractera en mer de Ross, donc qui permet effectivement d'écouter les bavardages, on va dire, des mammifères. Et puis, inventaire de colonies de manchots. Parce qu'effectivement, Cap Crozier, Cap Adare, il y a une multitude de colonies de manchots qui sont là, assez concentrées. Et donc, nous allons faire un inventaire par drone, avec Yves, notre ornitho-droniste. Donc, ça consiste à envoyer effectivement un drone par-dessus les colonies, et ensuite, on fait des comptages. C'est important, les aires marines protégées, parce qu'en fait, l'Antarctique est un immense désert de glace, hein, grand comme 28 fois la France, et recouvert par 2,5 km de glace en moyenne. Et donc, comme tous les glaciers des montagnes, comme tous les glaciers, les calottes polaires, par gravité, ça descend et ça arrive à la mer. Et il y a très peu de zones où il y a des graviers, du sable, où les manchots peuvent venir se reproduire. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des colonies très intenses, quoi. Il y a par endroits 5 000, 10 000 manchots. Et donc, on peut imaginer que ces manchots, quand ils vont mettre les petits au monde, hein, il va falloir les nourrir, on va arriver où les petits seront déjà grands. Donc, il y a vraiment, les parents se relaient, vont en mer pour chercher la nourriture. Et donc, il est fondamental de libérer ces zones d'accès. Elles sont rares autour de l'Antarctique, de libérer ces zones, de ne pas pêcher sur ces zones-là, d'en faire des aires marines protégées. C'est absolument essentiel à la survie de ces colonies.
Et donc, quel va être le trajet qu'on va parcourir pendant cette mission dans les différentes aires marines protégées ?
Alors là, on va entrer en mer de Ross. C'est donc la principale. Il y a tout le tour de la côte de la mer de Ross. Nous avons plusieurs inventaires de faune à faire. Cap Adar, normalement, à la sortie de la mer de Ross. Puis il y a des îles, les îles Baleni, Sabrina. Alors ça, ce sont des îles qui font partie de l'aire marine protégée de la mer de Ross, mais qui sont loin, qui sont souvent encombrées de glace, qui sont rarement visitées. Donc c'est assez précieux. Ça nous est demandé, effectivement, par les scientifiques américains, d'apporter cette valeur-là qu'ils n'ont que rarement. Et puis nous, on va continuer vers la mer du Mont-d'Urville, faire des inventaires de colonies, ce que l'on verra sur le trajet jusqu'à la station. Et disons que le rapport que nous ferons, ça sert au rapport qui va être présenté à la CAMELAR, cet organisme qui attribue les aires marines protégées, pour des négociations. La France et l'Australie négocient 3 aires marines protégées sur la côte est de l'Antarctique et dont nous allons contribuer à cet inventaire de faune.
Et donc on va s'arrêter dans différentes bases scientifiques, hein, c'est bien ça ?
Alors il y a des bases, il y a 3 bases, 4 bases on va dire, sur lesquelles on est attendu, on a prévenu de notre passage la base néo-zélandaise, Scott Base, McMurdo, la base américaine. Il y a une base italienne, Mario Zucchelli, voilà. Et puis bien sûr la base française, où personnellement, on a essayé d'y aller quand j'étais venu là il y a longtemps, sur le volcan Erebus, c'était en 93. On avait prévu d'aller à la base française, on n'avait pas pu pour des raisons de glace et autres. J'espère que là, on va y revenir.
La base française du Mont-d'Urville, hein, c'est bien ça.
Oui, la base française du Mont-d'Urville, comme il y a la mer du Mont-d'Urville, et la base française du Mont-d'Urville, du nom de cet explorateur. Et ça illustre bien ce qu'il dit. À un moment donné, quand on lit le rapport, ils ont trouvé un endroit où il y avait des rochers où on pouvait débarquer. Ça illustre que les zones sur lesquelles les manchots peuvent venir se reproduire sont relativement rares, et c'est ça qu'il faut protéger.
On est une vingtaine à bord. Est-ce que tu peux expliquer en gros qui fait quoi à bord ?
Alors, nous sommes 18 à bord. Il y a un équipage professionnel de 7 personnes. Ils sont tous diplômés de la marine marchande. Persévérance est considérée comme un navire de travail. Donc, on avait l'obligation d'avoir un équipage professionnel. Ensuite, il y a plusieurs personnes qui sont là pour les programmes de recherche. Il y a Grant Redberg, qui a une grosse performance, qui a une connaissance, on va dire, des régions polaires. Il est venu souvent. C'est un Néo-Zélandais, on va dire, entre guillemets, qu'il est ici chez lui. Il a fait plusieurs missions ici sur la base Néo-Z. C'est lui qui va s'occuper aussi de nous aider à retrouver ce mouillage qui est au cou, qui est en profondeur. Donc ça, c'est Grant. Ensuite, il y a un Américain, Emmanuel Boss. Il est là pour travailler pour la NASA, pour travailler pour un satellite qui s'appelle PACE. L'idée, c'est de donner au satellite, pour faire court, la notion de la lecture du plancton. On va dire que le plancton, le phytoplancton, l'herbe planctonique, hein, elle est verte dans l'océan. On ne s'en rend pas compte, mais l'océan est une immense prairie. Il y a une activité colossale qu'on ne voit pas, effectivement. Et donc, ce phytoplancton est là. Et donc, il est vert. Et le satellite PACE passe régulièrement. Et il faut le calibrer. Ça s'appelle calibration, validation. Et ce satellite aura en mémoire la couleur verte de l'océan. Et si bien que ce satellite qui tourne sans arrêt autour de la Terre, chaque fois qu'il va découvrir une couleur verte riche en phytoplancton, ça donnera une idée de la richesse et aussi de l'activité biologique. Ensuite, il y a Mathieu Lys, il travaille à Airbus. Il est là, il va faire des images satellites. Emmanuel fait des images pour un satellite qui est à 600 km et Mathieu pour un satellite aussi qui est à la même hauteur, mais ce sont des images qu'il va nous ramener, des photos. On doit pouvoir voir des colonies de manchots parce que les photos qu'il ramène ont une précision de 30 cm, j'ai bien compris. Et ensuite, on a Marie-Jo. Marie-Jo, elle est là comme voyageuse, mais une voyageuse érudite, on va dire. Marie-Jo, elle est professeure de microbiologie à l'université, à la fac de pharmacie de Paris. Elle est entrée avec nous dans le jeu totalement, avec Emmanuel, pour travailler sur les collègues de plancton. Puis on a Hervé Le Goff, hein, Hervé Le Goff, que vous connaissez tous, avec qui on a fait pas mal de voyages. Et Hervé connaît parfaitement tous les instruments qui sont à bord, qu'il faut calibrer, qu'il faut surveiller, etc. Il a déjà fait des récupérations de mouillage, de nombreuses missions en Antarctique. Et donc, c'est un des piliers, je dirais, du programme scientifique du bateau. Il y a aussi Yves David. Alors, Yves David, c'est un ornithologue, qui est aussi un droniste, donc qui sait utiliser le drone pour faire des inventaires. Il a travaillé pour l'ETAF, il a fait beaucoup de missions. Il a une culture. Yves, donc, est un passionné d'oiseaux à tel point qu'il passe une bonne partie de son temps dehors, même par tous les temps, pour essayer de les repérer, de les photographier, de les inscrire. Donc c'est lui qui va faire l'inventaire de faune, notamment des colonies de manchots.
À écouter Jean-Louis, on comprend donc que l'objectif de notre mission est principalement axé sur un inventaire de la biologie marine, allant des micro-organismes sous-marins comme le plancton, jusqu'aux gros mammifères marins tels que les phoques et les baleines. À noter qu'en Antarctique, il n'y a pas de mammifères terrestres, contrairement à l'article avec ces fameux ours polaires. Mais au-delà de ces objectifs d'inventaire de faune, notre navire est équipé de nombreux capteurs automatiques qui analysent en permanence les paramètres de l'eau et de l'atmosphère. On a une station météorologique. On mesure les polluants atmosphériques en pompant l'air dans la mâture. On mesure la température, la salinité, l'acidité et la concentration en CO2 dans l'eau que l'on pompe sous le navire en permanence. Et on mesure les courants marins jusqu'à environ 100 mètres de profondeur. Toutes ces mesures sont chargées ensuite dans des bases de données à la disposition de la communauté scientifique, c'est des données ouvertes, pour alimenter les modèles de climat qui analysent le changement climatique dans les régions polaires, car ces régions polaires sont particulièrement impactées par l'effet du réchauffement. En 2021, j'avais documenté pour RPH une autre mission antarctique à laquelle j'avais participé, et la comparaison me semble intéressante. C'était donc en mer de Weddell, l'autre gros bassin côtier du continent antarctique, qui est situé au sud du Cap Horn, donc à l'opposé de la mer de Ross où nous allons maintenant, qui elle est située au sud de la Nouvelle-Zélande. Mais ces deux bassins présentent des caractéristiques similaires. Des écosystèmes très particuliers tant d'un point de vue biologique que physique, avec une grande barrière de glace dans le sud de ces mers, des fortes concentrations d'icebergs et de banquises estivales, et le fait que ces deux mers sont les seuls endroits en Antarctique où on peut descendre jusqu'à 78 degrés de latitude sud par voie maritime, c'est-à-dire à 1300 km du pôle sud. Cette mission de 2021 se déroulait à bord du Polar Stern, le gros brise-glace scientifique allemand qui fait 120 mètres de long, 18 000 tonnes de déplacement et 20 000 chevaux de puissance de propulsion. Donc évidemment, rien à voir avec notre petit Persévérance qui lui est un voilier de 42 mètres de long quand même, 350 tonnes de déplacement et un moteur de 600 chevaux. Donc évidemment, les capacités à naviguer dans la glace ne sont pas du tout comparables, bien que la coque aluminium épais de Perseverance ait été conçue pour naviguer dans de la banquise disloquée. Et donc on s'attend à de belles bagarres avec les glaçons dans les semaines à venir, et je vous raconterai tout cela dans les prochaines chroniques. A bientôt, chers auditeurs et auditrices de Radio Pays d'Hérault et RPH Sud. Chroniques antarctiques. Voyage à la mer de Ross. Je vous emmène naviguer au cœur d'une expédition polaire le long des côtes de l'Antarctique.
On l'a rien tout devant l'air. Voilà, tout devant l'air. Tout à fait, on l'a tout devant l'air. Ok. Ah, ben, j'ai l'air de... Ouais, Sergio, c'est clair, c'est ça ?